Voici un petit coup de maille au café oriental. J'ai réduit totalement cette
histoire. Voici ces lignes de diplomatie au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de participer à ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. En décembre 2012, l'association congolaise des banques, ACB, a signé avec le gouvernement de la RDC un accord de partenariat relatif à la bancarisation de la paye des salaires des agents et fonctionnaires de l'État sur l'ensemble du territoire national. Objectif, améliorer le vécu quotidien de cette catégorie de la couche sociale par une paye régulière et intégrale afin de crédibiliser l'administration publique. Deux ans après, quel regard portez-vous sur ces partenariats ACB, gouvernement congolais? Pour participer en direct, rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net et appelez-nous au 081 890 6315. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Sylvain Matundu est à la technique. César Julie Bongonda est à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Ben Kabamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous avons en ligne, avant d'ouvrir les standards pour accueillir les réactions des uns et des autres, Michel Somoy qui est analyste économique. Michel, bonjour.
Bonjour, J.R.
Quel est le bilan qu'on peut établir à ces jours par rapport à ces processus de bancarisation ou à ces systèmes initiés par les gouvernements congolais?
Je devrais dire que le bilan doit être mitigé, mitigé dans la mesure où il y a une bonne frange, il y a une bonne partie de la population qui se dit satisfaite de ce contrat parce que les agents, les fonctionnaires de l'État dans certains endroits de la République ont bénéficié de façon relativement régulière de la paye qui leur est destinée et surtout du montant tel qu'il est inscrit sur leur bulletin de paye. Une bonne partie de la population également s'en plaint énormément et s'en trouve plus que préjudiciée. J'ai vu aussi dans certains endroits, dans certains milieux, parce que je venais de faire une petite tournée à travers de quelques provinces de la République, j'ai rencontré aussi des endroits où ce phénomène porte, ou plutôt cet accord porte un énorme préjudice à la population, notamment au service de l'éducation nationale et autres. Parce que à des endroits où les banques ne peuvent pas arriver, il y a des agents qui effectuent jusqu'à plus de 100 km pour aller toucher ce salaire. Et ces enseignants et autres fonctionnaires sont obligés d'abandonner leur poste de travail, parfois jusqu'au-delà d'une semaine. Et ce sont les bénéficiaires des services de l'État qui sont victimes de cette situation. Encore que il y a aussi des banques, soit dit en passant, qui sont en contrat avec l'État et qui font un peu d'aventure par rapport à cette opération, dans la mesure où, sans avoir une seule implantation nécessaire, une seule infrastructure nécessaire dans certains contrats de la République, se permettent de recevoir des fonds de l'État pour payer les fonctionnaires et ne le font pas du tout. Ce qui fait que, à mon humble avis, ce bilan est énormément mitigé. Et si j'avais un conseil donné à l'État, je ne l'aurais jamais conseillé de faire de signer ce contrat de partenariat avec l'ACB dans les conditions que l'État l'a signé. Parce que au-delà du service lui-même, le plus grand bilan que l'on puisse tirer, c'est celui maintenant du rapport entre les bénéfices et les coûts de l'opération. Qui est gagnant dans cette opération? En tout cas, ce n'est pas l'État congolais du tout, parce que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres circonstances, le rapport bénéfice-coût m'indique que l'État a supporté des coûts qui sont irrationnels simplement pour atteindre un objectif qu'il atteint même difficilement ou qu'il n'a presque pas atteint du tout. Et je dirais, à quoi bon, c'est de l'irrationalité.
Voilà, alors Michel Somoy, si nous rentrons en arrière, le 7 mai 2013, une année après cette, disons, ces systèmes d'installation, donc de ces systèmes, le premier ministre de la République démocratique du Congo, Guy Matata Ponyo, a déclaré que la bancarisation de la paie des fonctionnaires de l'État a permis à l'État congolais d'économiser, de faire des énormes économies. Alors, donc, pour dire que pour le gouvernement congolais, le bilan est positif.
Non, le premier ministre n'avait pas tout dit. Comme dirait un ancien procureur général de la République, le Premier ministre avait dit la vérité, mais n'avait pas dit toute la vérité. C'est-à-dire qu'il avait donné les aspects positifs de cet accord, mais il n'avait pas donné le coût que l'État a subi pour réaliser cela. Mais vous vous souvenez aussi que au courant de cette année 2014, le vice-premier ministre et ministre du Budget avait été interpellé au Parlement sur cette même question. Il avait reconnu que le rapport bénéfice-coût indiquait que l'État était perdant dans cette opération et qu'il attribuait cela à l'apprentissage. Il demandait aux gens d'être tolérants et de supporter que l'État continue à échouer jusqu'au jour où il pourrait un jour réussir. Donc en fait, le Premier ministre n'a vu que les économies qu'il avait faites sur l'enveloppe de la paye qui était antérieurement destinée aux agents fictifs. Et avec le système de ce qu'ils appellent erronément la bancarisation, eh bien, ils ont pu éliminer un certain nombre de fictifs, ça fait un peu d'économie, mais à quel coût? Moi je dis que les coûts qui devaient être supportés par l'État, au nom des fonctionnaires et agents de l'État, étaient énormes. C'est-à-dire, il y a des frais bancaires qu'il fallait pour la gestion des comptes de ces agents de l'État, et on sait que dans un pays comme le nôtre, où les banques sont des rapaces, des vampires, mais ça ne pouvait pas être une bonne mesure de la part de l'État. Le Premier ministre avait camouflé expressément cet aspect des choses pour ne pas dire à la population combien l'État congolais avait en réalité perdu. Mais je vous dis qu'il a beaucoup perdu dans cette opération. C'est la raison pour laquelle l'État a fini par comprendre qu'il devait, énormément en retard, il a compris qu'il devait se désengager de la subvention qu'il accordait aux banques pour pouvoir tenir cette opération. Et il a compris ça énormément en retard. Je crois que s'il n'y avait pas eu de coûts énormes subis par l'État, il ne se serait pas engagé dans l'opération. Le Premier ministre aurait dû la dire la vérité, mais enfin, disons toute la vérité.
Alors, nous savons que, disons, la fonction publique compte énormément de services. Alors, à ce jour, combien de services sont vraiment dans la paie et bancarisés?
Je ne suis pas capable de vous donner une réponse exacte à cette question. Je pense que c'est une question qu'il faut poser à ceux qui sont impliqués directement dans l'opération.
Oui, parce que déjà en juin 2013, on parlait déjà de plus de 70%.
Non, mais ce que je sais, c'est que au lieu de parler de services, on peut parler du nombre des agents qui ont été bancarisés. Parce que là, je me souviens avoir entendu le ministre du Budget parler d'un chiffre du genre 700 000 agents. Parce que nous savons que, en réalité, nos fonctionnaires ne dépassent pas 1 million d'agents. C'est déjà un nombre insuffisant pour un État qui se veut présent à travers la République. On a moins d'un million de fonctionnaires d'agents de l'État. Et pour le ministre du Budget, il avait parlé un jour d'un chiffre avoisinant 700 000 les fonctionnaires, agents déjà touchés par la bancarisation. Mais encore une fois, personne n'a fait le but pour vérifier ce qu'il disait était vrai ou faux. Mais moi, je pense que ça peut être vrai, mais je ne vois pas jusque-là en quoi ça pourrait être aussi important que ça. Et du point de vue de bénéfices de l'État qui n'existent pas, et du point de vue de ce qu'on appelle techniquement, effectivement, la bancarisation d'un pays. Parce que, soit dit en passant, vous devriez savoir qu'aujourd'hui, le Congo est pratiquement le dernier pays dans le monde où on peut encore trouver pour une banque une population de plus de 4 millions d'habitants par banque. Alors que dans beaucoup de pays où on parle vraiment de la bancarisation, non seulement le taux de bancarisation lui-même est suffisamment élevé, mais vous trouvez que le rapport de la population aux banques va parfois jusqu'en dessous de 100 personnes par banc. Nous sommes à 4 millions. Et dans des pays africains, la moyenne tourne autour de 200, 300 000 personnes par banque. Mais quand que le Congo soit à 4 millions, vous comprenez déjà que parler de la bancarisation, à la limite, c'est de l'injure, quoi. Pour...
Alors, vous avez parlé de gouvernement congolais qui a beaucoup perdu dans ce processus de bancarisation ou dans ces systèmes. Est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur, en fait, ces pertes? Et on peut la chiffrer, on peut l'évaluer concrètement?
Ben écoutez, la chiffrer concrètement, je crois que ces statistiques existent bel et bien auprès de ceux qui mènent l'opération. Mais moi, je sais en tant qu'analyste que disposer d'un compte à la banque auprès d'un compte auprès d'une banque chez nous, ça a un coût. D'abord, le coût de gestion du compte bancaire. Il y a les frais de tenue de compte. Ils ne sont pas inférieurs à $5 par mois. Frais de tenue de compte. Pas moins de $5 par mois. Quand vous voulez retirer de l'argent, il y a des frais les banques ont des termes pour vous donner, pour inventer toutes sortes de frais, pour sortir un peu dans de votre compte, vous payez des frais. En plus de tenir de frais tenus par compte, de tenir de compte, vous avez encore des frais pour retirer, chaque fois que vous retirez de l'argent, vous devez laisser tout sortir de la banque. Il y a des différents frais de commission lorsque la banque peut vous dire maintenant, comme vous avez maintenant un salaire régulier payé en audition, on peut vous donner un petit crédit et ce petit crédit donne lieu à beaucoup d'autres frais de commission, de ceci, etc. Donc, en fait, quand vous regardez bien, rien que la gestion de ce compte coûte à l'État congolais, en tout cas, pas moins de $7 à $8 par compte bancaire, par mois. Ça coûte à l'État. Mais prenez le nombre de comptes que l'État congolais a ouverts et considérez que l'État paye pas moins de $7 à $8 par mois, par compte. Vous faites le calcul, vous saurez quel est le montant que l'État a perdu. Et quelles sont les économies que l'État a faites pour avoir élagué de ces listes quelques fictifs et quelques personnes qui sont déjà mortes qui continuent à être payées par l'État congolais. Les économies demeurent faibles, le coût demeure élevé par rapport à la capacité financière de l'État congolais.
Alors, si nos calculs sont bons, parce que le Premier ministre a intervenu au cours de cette émission Parole aux auditeurs le 7 mai 2013, une année après l'intention de son gouvernement, il a dit que la bancarisation de la paye des fonctionnaires de l'État a permis à l'État congolais d'économiser $5 millions. Si nos calculs sont bons, disais-je, donc 2 ans après, on pouvait avoir en tout cas plus de 10 millions. Alors, si jamais on s'en tient au calcul que vous êtes en train de nous faire, donc l'État congolais est capable de payer les prestations de toutes ces banques, on ne se trouverait pas dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, parce que nous avons été tous surpris de voir une communication de l'ACB, donc l'Association congolaise des banques, dans sa note d'information aux agents et fonctionnaires de l'État, qui suspendait donc, en fait, le partenariat avant de poursuivre des discussions avec le gouvernement congolais par quant à ces processus de bancarisation qu'ils ont justifié donc le fait qu'ils n'ont pas été rémunérés pour leurs prestations depuis janvier 2014.
Et pourtant, la CB a parfaitement raison, parce qu'il s'agit d'un contrat conclu entre l'État et la CB. Mais comme je vous dis, le coût est énorme pour l'État congolais, et donc vous comprenez que l'État n'a pas été capable d'honorer ses engagements vis-à-vis de la CB, parce que, je répète, le coût était supérieur aux bénéfices. Et l'État congolais a compris cela malheureusement en retard. Et c'est parce qu'il a compris ça en retard qu'avant le communiqué de l'ACB, l'État lui-même a déclaré qu'il ne prendrait plus en charge les frais bancaires qui sont attachés à cette opération de la bancarisation. Et l'ACB ne pouvait que décliner à partir du moment où plutôt voulait révoquer l'accord qu'ils ont eu avec l'État. Parce que les fonctionnaires eux-mêmes ne peuvent pas supporter ce coût-là. Nous savons tous que le salaire que l'État congolais paye à ces agents fonctionnaires est tellement insignifiant que ça serait suicidaire qu'un agent dispose d'un compte en banque pour gérer son maigre salaire. Et c'est dans ce cadre que, devant cette évidence, que l'État s'étant désengagé et que sans être capable d'augmenter le salaire des agents, l'ACB... Donc les banques qui ne sont pas des associations philanthropiques, les banques ne peuvent pas faire des cadeaux comme ça aux agents. Voilà pourquoi, en réalité, l'ACB se rétracte pour dire dans ces conditions, étant donné que l'État ne peut plus supporter ces coûts, Donc l'ACB non plus ne peut pas continuer à honorer son engagement vis-à-vis de l'État. C'est tout à fait normal. C'est une question d'ordre strictement financier, parce que le coût, je le répète, sont énormément supérieurs aux bénéfices et aux économies faites par l'État congolais dans cette opération.
081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous passons de l'autre côté du standard avec vous, Martin Dalla, vous êtes à Calémie, Dr Richard à Kinshasa. Martin, bonjour.
Bonjour, je suis le journaliste et mes salutations à tous les auditeurs et l'invité que j'aime bien.
Voilà, Martin, deux ans après, quel regard portez-vous sur ces partenariats, Association congolaise des banques et gouvernement congolais?
Bon, je voudrais commencer mon intervention en disant d'abord que vu l'état dans lequel s'est trouvé notre appareil administratif et les niveaux que nous avons eu aujourd'hui, il y a des grandes avancées. Parce que la bancarisation des salaires de fonctionnaires de l'État est un point vers la modernisation de l'administration publique. Alors sur ce coup-là, la mesure qui a été prise par le gouvernement mérite quand même d'avoir des félicitations. Maintenant, là où les bas blessent, là où la situation semble être un peu une précipitation, c'est au niveau de la préparation. On sent que le gouvernement n'a pas suffisamment préparé les mécanismes et, en conséquence directe, il y a maintenant des irrégularités innombrables. Vous avez par exemple les gens qui doivent faire des longues distances pour aller avoir leur salaire. Il y en a même qui sont exposés des journées entières au soleil en attendant leur salaire. Donc sur ce coup-là, il y a des grandes difficultés. Alors, au deuxième niveau, il faut toujours aller dans le sens d'analyser le bilan ou de faire un bilan sur l'opération. Je veux dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, s'il faut chiffrer un pourcentage, je crois qu'ils n'en vont pas encore atteint les 50%. Pourquoi? Parce que déjà, en dehors du fait que les gens doivent faire une longue distance, il y a aussi la médiocrité des salaires. On s'attendait à ce que cette opération puisse concourir à l'amélioration nette des salaires de fonctionnaires, mais cette situation n'a pas suivi. On est toujours dans une sorte de statu quo, les salaires sont restés les mêmes, et rien n'a presque changé dans les vécus quotidiens du fonctionnaire congolais, qui bien sûr est en train de toucher actuellement son salaire à la banque. Maintenant, pour finir mon intervention, parce que le bilan je l'ai dit, il est totalement pas total, donc c'est à moitié, c'est comme un verre à moitié plein et à moitié vide.
Donc, c'est
maintenant, je vais poser une question à l'invité pour finir aussi mon intervention. Le Premier ministre Augustin Matata-Ponyo on avait dit que cette opération permettrait au gouvernement d'avoir beaucoup d'héritiers, d'avoir beaucoup d'argent qui était perdu aux fonctionnaires fictifs. Maintenant, où est parti cet argent et quels sont les mécanismes pour essayer quand même de redistribuer cet argent aux fonctionnaires qui sont alors véritablement existants? C'est comme ça que j'ai parachevé mon intervention. Merci.
Merci beaucoup, Martin Dalla, pour vous. Vu l'état dans lequel se trouvait le niveau de l'administration publique en matière de la paye, il y a quand même des avancées et qui vous poussent d'ailleurs à évaluer les bilans de la même manière que notre invité qui parlait tout à l'heure d'un bilan mitigé. Alors là où vous émettez quand même quelques inquiétudes, c'est par rapport à l'impréparation. Vous avez beaucoup plus souligné l'impréparation du côté de l'État congolais. Vous avez senti comme si c'était vraiment de l'amateurisme et beaucoup de choses restent encore à faire. Selon vous, on n'a pas encore atteint le 50% des objectifs, souhaités dans ces systèmes. Alors, vous avez terminé votre intervention en posant bien entendu une question sur l'économie sortie de ces systèmes lorsqu'on a élagué quelques effectifs en récupérant quelques reliquats. Merci beaucoup, Martin, d'avoir appelé de Calémie. Docteur Richard, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour J.R., bonjour aussi à M. Son. Vous savez qui pouvait être mon directeur de mémoire si j'étais étudiant en économie.
Vous avez la parole, Dr. Richard, et votre point de vue.
Je suis triste d'apprendre que l'État a perdu et les clients aussi perdus. Quels clients?
les fonctionnaires de l'État, qui perçoivent des salaires que je peux appeler salaire Ebola. Ebola, c'est pas seulement le virus, il y a aussi ce salaire-là. Et puis, les banques, quand vous regardez les crédits octroyés, par exemple, aux médecins que je suis, ils ont octroyé des crédits à partir de l'argent prélevé à la Banque centrale avec 2% de taux directeur. Et les bénéfices à récupérer, c'est 16%. Ça, c'est prendre les gens. Voilà. Moi, par exemple, j'ai refusé le crédit voiture parce que la voiture coûte très cher pour l'entretien de ma femme. Je suis allé solliciter le crédit équipement, comme nous avons vu au Rwanda, au Burundi, au Détesta, au même Détesta. Les communions au Burundi. Alors, on nous a dit net. Pour renouveler, par exemple, la chaîne de froid dans la maison, il faut aller acheter cash. Voilà. Donc, pour moi, c'est une aventure des amis de ce qu'on dit Banque mondiale. Il y a eu un monsieur qui a dirigé ce pays comme premier ministre, avec la rigueur. On a élagué tous les salaires, à tel point qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'on appelle les allocations familiales. Donc, ça, c'est une aventure. Le comptable qui nous payait manuellement retirait 500 francs pour toutes leurs manœuvres. Mais aujourd'hui, on me retire 8000 francs. Voilà comment c'est une opération qui ruine, que je peux appeler opération Ebola.
Si. Voilà, alors docteur Richard, à ce jour, c'est vrai, nous avons été tous surpris, vous êtes fonctionnaire, d'apprendre hein, au travers d'une communication de la CB que, au fait, l'opération a été quand même suspendue d'un moment, disons, jusqu'à nouvel ordre, dans la mesure où l'État n'a pas encore rémunéré ses banques pour leurs prestations depuis janvier 2014 et par conséquent, elles ne sont plus en mesure d'assumer les coûts importants qui représente la logistique d'une paye apaisée et des proximités sur toute l'étendue du territoire national. Comment vous réagissez?
Oui, ça c'est une façon de dire qu'on nous avait menti. On a dit qu'on a récupéré des bénéfices. En récupérant ces bénéfices, pourquoi le gouvernement n'a pas payé les droits des autres? Où est parti cet argent? Est-ce qu'on peut diligenter l'audit pour savoir qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même chose avec l'argent qu'on a bouffé de l'opposition. Voilà comment une oligarchie s'occupe de deux tiers du budget de l'État et le reste, c'est pour toute la population. Ça, c'est pas raciste. La lumière montre qu'on ment peuple au jour le jour et on gère le pays avec des slogans.
Merci. Voilà, docteur Richard, merci beaucoup. Et là, vous avez parlé de l'État qui a perdu, les clients aussi. Voilà, vous avez rejoint notre invité qui le disait tout à l'heure et vous nous avez démontré, hein, tout cas chiffre à l'appui, ce qui se passe en réalité. Les banques octroient, d'ailleurs, vous avez pris cet exemple, les banques octroient des crédits, en principe, qui devaient être faits autour de 2% de taux directeur proposé par la Banque centrale, mais les banques les font autour de 16%. Donc, pour vous, vous taxez cela d'une escroquerie pure et simple. Et vous avez dit, c'est vrai, avec les comptables, l'agent de l'État touchait, c'est vrai, son salaire imputé de sommes telles que 1000 francs ou 2000. Mais aujourd'hui, avec les opérations bancaires, l'agent perd comme ça facilement 8000 francs congolais. Alors, parce que vous êtes fonctionnaire, on voudrait que vous accordez le bénéfice des doutes. Merci beaucoup, docteur Richard, d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre Franklin qui est à Bukavu. Franklin, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Bonjour à notre invité, Michel Fomé.
Alors, quel est le bilan que vous établissez de ces partenariats entre la CB et le gouvernement congolais par rapport à la bancarisation?
Bon, je peux dire que c'était une bonne idée, mais apparemment, les blocages, les contours ou inédits ministères sur cette question n'ont pas été bien faits par le gouvernement. Parce qu'au début, on devrait définir d'abord tous les préalables et tous les blocages qui devraient survenir. Mais tout juste comme ça, on vous dit maintenant, nous sommes en train d'imaginer quels sont les fonction des blocages, comment est-ce que nous allons nous y mettre. Je vous donne juste cas aussi qui vous montre que cette mesure avait commencé. Il y a les gens qui quittaient Chabunda. Et vous voyez comment quitter Chabunda jusqu'à Bukavu, comment ça coûte. mais ça n'écoute même pas les salaires que les agents venaient récupérer à Bukavu. Ils arrivent déjà à Bukavu, leur salaire est déjà fini et ils sont déjà en été. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là que cette mesure n'a pas été bien étudiée. Deuxièmement, il y a la qualité et l'efficacité des banques. Vous imaginez dans un pays où les banques ne sont pas en fait implantées dans tous les territoires de la République, mais on dit la bancarisation. À ce niveau-là, il y a eu aussi ce blocage-là qui n'a pas fait que la mesure de la bancarisation puisse bénéficier en fait aux fonctionnaires. Mais au-delà de ça, moi je peux dire que c'était une bonne mesure parce que à ce jour aussi, là où il y a la bancarisation, lorsque vous interrogez les fonctionnaires et même par exemple les enseignants, ils vous disent qu'ils perçoivent leur salaire à temps et qu'ils perçoivent leur salaire en totalité. Ça, je l'ai appris des fonctionnaires, des enseignants de l'État, et qui disent que non, c'était une bonne mesure, mais seulement il y avait un problème pour le territoire. C'est à ce niveau-là que moi je pense. Parce qu'avec les agents payeurs, il y avait tout ce qu'on pouvait dire. Les agents payeurs arrivent d'abord, ils arrivent en retard, deuxièmement, ils amènent un salaire qui n'est pas au complet. Et avec tout ce qu'on connaissait là avec les agents payeurs, aujourd'hui, la bancarisation, nous pouvons dire que c'était une très belle mesure que le gouvernement avait prise. Là où je voulais discuter, quand vous avez accueilli dans cette émission, vous l'avez dit, le premier ministre, qui avait dit des certains montants qui ont été récupérés. Je suis d'accord avec lui. Mais la question qui se pose, à quoi aurait servi tous les fonds déjà alloués, tous les fonds récupérés? L'affectation avait fait quoi? Je pense qu'au nom de la transparence, le premier ministre devrait dire que les fonds que nous avons récupérés, voilà à quoi ça nous a servi. Et la question que je voulais poser à notre invité.
Voilà, oui, allez-y, Franck. Allez-y.
C'est comme juste une question. Oui, si le gouvernement vous était demandé de les prodiguer un conseil, quel est le conseil que vous, en tant qu'analyste, vous, en tant qu'expert, pouvez-vous donner en matière de la bancarisation? Voilà un peu mon intervention.
Merci beaucoup, Franklin. Une étude minutieuse n'a pas été faite en amont pour, au fait, scruter à fond les préalables liés à ce système ou à ce mécanisme pouvant permettre aux agents et fonctionnaires de l'État de percevoir leur salaire régulièrement et en tout cas à temps. Voilà, la qualité et l'efficacité des banques, vous avez évoqué cet aspect des choses. Le fait que la RDC soit sous-bancarisée, cela ne pourrait que constituer un obstacle pour la réussite de ces systèmes. Mais voilà, et pourtant, les systèmes en soi, vous saluez les démains pour dire qu'il s'agit là d'une très bonne chose, mais la question n'a pas été étudiée à fond. Voilà, vous avez terminé votre intervention en posant une question à Michel Sommeau, qui est notre invité, lui a été demandé de prodiguer des conseils au gouvernement par rapport à ces systèmes. Qu'est-ce qu'il répondrait? Donc, merci beaucoup, Franklin, parce qu'il s'agit là d'une question directe. Monsieur Michel Sommouet, vous êtes avec nous. Vous avez suivi cette question directe de Franklin?
Oui, j'ai suivi toutes les questions qui m'ont été posées et par Martin et par Franklin. J'apprécie leurs analyses, tous y compris celles du docteur Richard, qui ont dit toutes des choses très, très pertinentes. Mais en somme, ce qu'il faut retenir, c'est que, quand vous entendez, par exemple, le problème des files d'attente auquel a fait allusion Martin, ou quand vous prenez l'exemple concret de Charles Défenseur qui quitte Chabunda pour Bukavu, comme le Défenseur, vous comprenez que cela s'appelle en économie des coûts. Ce sont des coûts qu'il faut associer à ceux d'ordre financier que l'État congolais supporte au niveau des banques, en termes de gestion des comptes de ses clients, ou plutôt de ses fonctionnaires. Tout ce coût, ça a une valeur en économie. Lorsque un agent de l'État se déplace pour venir attendre son salaire pendant une semaine, pendant trois jours, même une heure du temps, il y a ce qu'on appelle le manque à gagner. C'est un coût implicite énorme que subit l'entreprise ou la société de ce fait-là, de ce déplacement. Mais tous ces coûts-là n'ont pas été pris en compte par l'État. Ils sont liés à quoi? Ils sont liés à ce que venait de dire tout à l'heure le docteur Richard en parlant de la quantité et de la qualité des banques. Nous avons combien de banques dans ce pays pour que l'État s'engage dans une opération? Je viens d'indiquer un chiffre en disant, nous avons un rapport de plus de 4 millions d'habitants pour une banque au Congo. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que nous avons une infrastructure financière, une industrie financière qui est suffisante pour permettre à l'État congolais de prendre une telle mesure? Je crois que ça a été, de mon point de vue, une précipitation. On a parlé de la qualité des banques. Et d'ailleurs, parlant de la qualité, le docteur Richard a stigmatisé le problème du taux d'intérêt. il s'affiche à 16% auprès des banques, mais 16% c'est le taux affiché. Mais lorsque vous y ajoutez tous les coûts implicites, toutes les commissions que la banque prélève avant de vous remettre le crédit en question, avant que vous ne puissiez décaisser à votre le crédit en question, faites bien les calculs, vous n'avez pas supporté moins de 40% pour un crédit. Donc c'est de l'usure pure et simple. C'est un problème de qualité. Problème de qualité aussi dans la capacité des banques à gérer effectivement leur bilan. Est-ce que nos banques sont des professionnels dans la gestion des bilans? Moi, je vous dis que non. Sur vos antennes, j'ai déjà annoncé la faillite des banques, lisez la presse, ça continue. Mais au-delà de ça, il y a un autre problème qui tient à l'analyse des banques. Qu'est-ce que les banques font de l'argent qui est mis à leur disposition dans des comptes des clients congolais? Il n'est pas normal que dans un pays, on agrée comme banque des entreprises appartenant à des holdings familiaux. Ce n'est pas normal. Vous trouvez une banque qui appartient à une famille, laquelle famille est commerçante avec plusieurs entreprises. Mais qu'est-ce que la banque fait? Elle prend gratuitement l'argent des épargnants congolais qui sont déjà pauvres pour financer les activités de ces autres entreprises. Je me souviens que Docolo avait perdu le droit de propriété sur sa banque, la NBK, à cause de cette pratique. La banque centrale, à l'époque de Paypay, lui avait retiré le droit d'être propriétaire de la banque parce qu'il abusait de l'épargne des clients en finançant ces autres entreprises. Mais pourquoi cette mesure ne continue pas aujourd'hui? Pourquoi la banque centrale considère comme banque des membres, des filiales des holdings familiaux, si vous voulez, qui sont en train d'abuser de l'épargne des Congolais? On prend de l'argent des Congolais pour financer des activités propres d'une famille donnée. Et le niveau de crédit est faible. Et quand vous venez pour demander un crédit, vous qui êtes un épargnant, on vous fixe des taux d'intérêt qui sont colossaux. Alors que la banque se finance gratuitement avec votre propre argent.
Oui, Michel, je risque de perdre cette idée, hein, parce que vous avez parlé de la banque centrale, le rapport entre la banque centrale et les banques commerciales, aujourd'hui, qui sont en partenariat dans ce système. Mais on sait tout de même que la loi bancaire, la toute dernière loi révisée, octroie à la banque centrale l'autorité de réglementation, d'agrément et de supervision de tous les établissements financiers. Mais ce n'est pas le cas sur le terrain. On a comme l'impression qu'il y a certaines banques qui fonctionnent comme élections électro-libres.
Non, c'est de ça que je suis en train de parler hier. Je suis en train de dire, je suis parti du rapport entre le taux directeur de la Banque centrale et les taux d'intérêt que les banques appliquent à leurs clients alors qu'elles bénéficient de cette largesse de l'État congolais à travers ce que l'État appelle lui-même forcément la bancarisation. Et je dis qu'en plus de ça, la Banque centrale est effectivement l'autorité de supervision des banques et c'est elle qui a le pouvoir d'agréer les banques. Sur base de quels critères elle peut agréer des banques? Vous parlez de la qualité des banques auxquelles on confie comme ça les salaires des pauvres fonctionnaires, alors que ce sont en fait des banques qui ne sont pas professionnellement des véritables banques, qui moralement ne devraient pas être agréées comme des banques. Alors on leur confie des... C'est un problème de qualité. Je voulais insister sur l'analyse qu'avait faite, je crois, Michel, qui non, c'est plutôt Franklin qui avait son point d'analyse sur la qualité des banques. Mmh. Est-ce que ces banques-là vraiment méritent cette confiance de l'État et même des agents et fonctionnaires de l'État pour gérer les maigres salaires des agents? C'est un problème de qualité. Il y a aussi un problème de nombre de banques de qualité. J'ai fait des formulations aussi. Maintenant, pour revenir aux questions qui m'ont été posées, mais je crois que je ne suis pas la bonne personne qui devrait répondre à ces questions. Mmh. Martin dit, le Premier ministre avait dit qu'il a fait des économies. Depuis la bancarisation. Mais où est parti cet argent? Mais je ne suis pas capable de répondre à cette question parce que le Parlement lui-même aurait pu poser la question. Je comprends pas que Martin doit avoir élu certainement un député, mais qui demande à son député de poser quand même cette question au Premier ministre pour savoir où va l'argent qui sert à faire des économies. D'autant plus que, Dr Charles l'a dit, s'il y avait effectivement des bénéfices, pourquoi l'État qui a fait des économies n'est-il pas en mesure aujourd'hui de supporter le coût de la bancarisation, donner son engagement vis-à-vis des banques? Franklin me pose la question pour savoir quel conseil je donnerais au gouvernement en rapport avec cette opération de bancarisation. Je dis que dès le départ, vous vous souvenez sur vos antennes, j'avais dit dès le départ de l'opération, j'avais dit qu'il y avait beaucoup d'erreurs. La première erreur est d'abord d'ordre conceptuel. On a appelé bancarisation quelque chose qui ne s'appelle pas en économie bancarisation. Parce que la bancarisation, c'est l'importance de la population qui utilise les services bancaires. Et pour la mesurer, on prend le nombre total des comptes des agents par rapport à la population totale du pays. Il s'agit bien d'une relation entre les banques et les individus privés, dans laquelle l'État ne joue aucun rôle. Mais ici, l'État a domicilié la paye de ses fonctionnaires au guichet des banques. Ce n'est pas la bancarisation. Disons les choses telles qu'elles devraient s'appeler d'un point de vue économique, du point de vue technique. L'économie a son concept, ses concepts, elle a son jargon. Il faut le respecter, point de départ. Mais la bancarisation est une grande nécessité pour toute économie. C'est-à-dire cultiver, si vous voulez dire la culture, ou si vous voulez accentuer la culture bancaire dans un pays, c'est très important. Parce que ça facilite même les transactions, ça assure la rapidité, la fluidité de la circulation des capitaux, ça allège ce qu'on appelle des coûts de transaction, ça amène l'économie à ce qu'on appelle son point d'efficacité. Donc c'est important le rôle que les banques jouent dans une économie. Il faut donc qu'un État puisse prendre des mesures qui stimulent la bancarisation, qui poussent, qui orientent les gens effectivement vers les services bancaires. C'est très important. L'intention est très bonne. Mais les méthodes, la façon, la compréhension me semble être erronée, de mon point de vue. Donc, il faut quand même restituer les choses dans leur contexte.
Merci beaucoup, Michel. On va prendre Platini Mbombo, qui est à Mbandaka, et Maurice Aguinjasa. Platini, bonjour.
Bonjour, Gilles Lungimbo. Bonjour à l'invité, ainsi qu'à tous les auditeurs de la Radio Capi à travers le monde.
Deux ans après, quel regard portez-vous sur ces partenariats ACB, gouvernement congolais, par rapport à cette bancarisation de la paye des agents et fonctionnaires de l'État?
Merci beaucoup, Gérard Mugimbo. Je suis parfaitement d'accord et plutôt je salue l'initiative de ACB pour la suspension des processus de bancarisation des salaires de l'État au niveau de la banque. Gérard, vous savez que à l'époque du fait Mobutu Kuzumbendu Wazabanga, notre papa, nos fonctionnaires de l'État touchent leur salaire et les salaires répondent à d'autres mois. Et aujourd'hui, nous avons suivi l'initiative du Premier ministre Mastapogno pour que les fonctionnaires de l'État touchent son argent au niveau près de la banque. Et M. Gérard, ici à RD Congo, nous avons nos banques, ce qu'on appelle BCC, donc Banque Centrale du Congo. Et les banques privées là, que nos fonctionnaires de l'État touchent leur argent, ce sont des banques privées. Alors, je vois que ça, c'est une escroquerie à nouvelle technologie. C'est ça, le gouvernement congolais commence à tromper les fonctionnaires de l'État. Parce que, vous savez, le CGR, quand je suis ici à l'Équateur, les gens qui quittent à Yakoma, venaient soit à Guadeloupe pour toucher l'argent. Et il y a combien de distances, CGR? Alors, pourquoi pas que nos banques congolais, comme le BCC, commencent à donc, que les fonctionnaires de l'État touchent leur argent auprès de la BCC, comme nos banques congolaises. C'est ça, les banques là, ce sont des banques privées, ce sont des banques qui se comme une agence, ce sont des banques de un entrepreneur ou quoi, je ne sais pas. Alors moi, je voudrais avoir quelque chose de précision. J'ai une invitée qui est avec vous là-bas au studio. Je voudrais vous demander quelque chose de savoir. Parce que le Premier ministre a dit que on va augmenter le salaire des fonctionnaires de l'État. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les salaires de l'État ne restent
pas. Oui, Platini, vos prédécesseurs ont évoqué cet aspect des choses, mais je retiens simplement que aujourd'hui, par rapport à votre intervention, si les banques ne sont plus en mesure d'assumer les coûts importants que représentent la logistique d'une paye apaisée des proximités sur toutes les étendues du territoire, ça laisse quand même place à plusieurs questionnements, notamment où sont parties toutes les économies réalisées par les trésors publics après cette opération, après avoir lancé cette opération, donc une année juste après, parce que le Premier ministre l'a reconnu au cours de cette émission, parole aux auditeurs, et voilà, donc une année après, voilà, ce sont pratiquement les mêmes questions qui sont posées par les autres. Mais nous retenons pour vous disons pour votre information, que les discussions, selon les informations de notre possession, sont en cours avec le gouvernement, avec la banque, disons l'association congolaise des banques, en vue d'un dénouement rapide de cette situation qui, au fait, pourrait permettre à ce que le processus puisse poursuivre sans désemparer. Merci beaucoup. Maurice, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, cher Mugimbo.
Vous avez la parole, Maurice. Quel est votre point de vue?
Je commence d'abord par féliciter l'invité, M. Michel Somont, pour la qualité et la pertinence de ses interventions. nous avons besoin quand même de ce genre de personnes. Malheureusement, nous regrettons à chaque fois quand ils sont appelés dans, à exercer certaines fonctions de l'État. Et la rationalité se perd au profit de, des intérêts qui seront représentés devant lui. Alors, je le félicite quand même pour cette intervention. Je voudrais dire ceci, que vous savez, dans ce pays, à chaque fois, quand nous abordons ce genre de sujet, quand j'interviens, à la fin, vous me dites, Maurice, quelles sont les propositions que vous faites? Je vous ai toujours dit, Gérard, je n'ai pas de propositions à faire parce que je ne crois pas à cette histoire. Et voilà. Donc, nous avions lancé ce sujet, je pense que c'est moins d'une année, nous avions parlé de cette concrétisation. Je disais que c'était
oui, pour votre mémoire, on en a parlé du moins quatre fois. La première fois, c'était avec M. Jean-Louis Kayembe, qui est le directeur des opérations à la Banque Centrale et qui est le président qui pilote en tout cas ces processus. La deuxième fois, c'était avec le Premier ministre lui-même, le 7 mai 2013. La troisième fois, on est revenu encore avec M. Jean-Louis Kayembe, bien avant, avec Michel Somoué, qui a aussi donné son point de vue par rapport à cette question. Et aujourd'hui, c'est la quatrième fois, nous revenons encore avec Michel Somoué, contenu en tout cas de l'horaire chargé des autorités de la Banque Centrale. Voilà, nous avons préféré faire des analyses libres avec tous les auditeurs.
Tout à fait, M. Gérard, merci pour les rappels. Je pense aussi intervenir, je crois, dans trois ou même les quatre.
Mm-hmm.
Alors, je veux dire que, vous savez, j'ai toujours dit à chaque fois quand ce gouvernement ici, les régimes ici, lance une initiative ou une innovation, j'ai toujours dit que c'est vraiment éphémère. Vous allez, à longueur de temps, me donner raison. Pourquoi je l'ai toujours dit? Nous avons observé, même pas en parlant de la bancarisation, nous avons parlé, plutôt observé, par exemple, certains projets qui ont été lancés dans ce pays. Notamment, par exemple, le barrage là, de Kakobo, là, où on a promis, fin 2013, les circuits environ, il y aura des courants, il y aura de l'électricité. Dans d'autres projets, c'est toujours pareil. Ici, le gouvernement, ici, il est vraiment très, très spécialiste en innovation, en lancement des grands projets, des gros investissements, mais la suite, on dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Où en sommes-nous aujourd'hui? Dans un pays normal, sérieux, payer les agents à la banque, c'est la plus simple, en fait, des exercices qu'on peut observer. Si vous allez, par exemple, au Gabon, vous allez voir quoi? Même vous allez dans des petites cités, vous verrez qu'il y a une représentation de la trésorerie publique où les agents des fonctionnaires de l'État vont toucher leur salaire. Mais ici, l'État, comme disait un auditeur là qui m'a précédé, que on prend des histoires, en fait, des initiatives par complaisance, de la même manière qu'on gère cet État, par complaisance, de la même manière qu'on gère tous les secteurs qui composent l'État. On ne pouvait pas faire des études sérieuses.
Oui, Maurice, je sais que vous aurez du mal à faire des propositions parce que c'est la énième fois que vous intervenez pour le même sujet et c'est la énième fois que vous nous réservez la même réponse. Ben alors, allons droit au but. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a l'ACB qui a sorti une communication disant qu'elle n'est plus en mesure d'assumer les coûts importants que représente la logistique d'une paye apaisée et des proximités sur toute l'étendue du territoire national. Et sur ce soit donc momentanément le processus jusqu'à ce que le gouvernement pourrait rémunérer ces banques pour leurs prestations. Alors comment vous réagissez par rapport à ça? Les vos prédécesseurs ont parlé des économies faites par le gouvernement qui devaient peut-être servir pour ces paiements.
Oui, je commence d'abord par féliciter d'abord cette structure pour cette décision courageuse qu'elle a prise, parce qu'on ne doit pas encourager vraiment le mal. Hein, les mal, il faut les combattre, l'extirper même. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment la mauvaise foi, c'est la méchanceté de ce gouvernement. On ne peut pas comprendre cela depuis que cette opération a été lancée, que ces gens-là ne soient pas payés, ne puissent pas toucher leurs droits. C'est pas normal. Qu'est-ce que je dois dire ici? Monsieur Michel a dit un problème de salaire, c'est déséquilibre salarial. Dans quel pays du monde vous pouvez comprendre qu'un sénateur touche plus de 200 fois
top fonctionnaires.
Voilà, on va se perdre un peu dans cette histoire des salaires des uns et des autres ou l'attention salariale. Merci beaucoup, Maurice, hein, d'avoir appelé et surtout d'avoir contribué, bien que vous avez eu du mal, en tout cas, à faire des propositions, comme l'a fait peut-être notre invité tout à l'heure. Merci beaucoup, Maurice, d'avoir appelé de Kinshasa. Namir, vous êtes à Bukavu. Bonjour. Namir, vous êtes avec nous?
Bonjour.
Oui, vous avez la parole, Namir. Vous avez la parole.
Merci pour la parole que vous m'accordez. Je suis Miliko Katintima Namir depuis Bukavu. Le ridicule ne dit pas dit-on, parce qu'on ne gouverne pas par tâtonnement ni par défi. Le système de bancarisation, comme l'a si bien dit votre invité, c'était tout simplement une domiciliation des comptes ou bien des frais alloués à nos enseignants ou bien à nos pauvres fonctionnaires du pouvoir actuel. Mais comme le disait l'autre, savez-vous que à part même les enseignants de payer quelque chose à la banque, ils sont soumis au niveau de nos collectivités et chefferies de payer même les impôts d'une façon locale, aussi longtemps que les salaires, leurs impôts devaient être retenus à la source. Ça, c'est une précision. Et maintenant, on ne compte même pas les frais collatéraux, parce que nous sommes des parents. Un enseignant qui quitte Kabare, qui quitte Calais pour venir percevoir son argent ici à Bukavu, consomme facilement 7 jours. Et le ministre de l'enseignement occupé est champion en proclamant les résultats des examens des cas bien avant. Il ne sache même pas les répercussions du programme national de ces réserves-là. Parce que si on fait 7 jours sans enseigner soit 10 mois, ça fait 70 jours. Nous autres, quand nous étions sur le bas de l'école, on apprenait 220 jours ouvrables. Si vous prenez alors 220 jours ouvrables, mais 70 jours, comprenez alors le niveau de l'enseignement. Et on se pose la question de savoir quel est le niveau de l'enseignant ou de l'élève congolais qui est formé. Et arrivé au pouvoir investi, on a nommé notre gouvernement un gouvernement des sourds-doués. Ou des sourds-doués, je ne sais pas, ou sourds-doués, parce que la fin dernière, imaginez-vous, pour mettre fin au problème des transports à Kinshasa, au lieu par exemple que le gouvernement lui-même engage ou paye ses bus, il paye des bus à un prix très cher et il commence maintenant à les revendre à un prix moins cher et dommage à crédit. Donc on gouverne par tâtonnement, on ne sait pas de quelle économie la tâche se prévaloir parce que les frais, les trop perçus de ces agents fictifs-là, et les gouvernements provinciaux et les gouvernements centraux, chacun se frappe la poitrine pour dire « Oh non, nous avons créé ou bien construit de nouvelles écoles. » On sait même à qui revient la paternité de ces écoles-là, si c'est pour les gouvernements centraux, si c'est pour les gouvernements provinciaux, c'était des broguillons. Donc on peut revoir ces problèmes-là parce que les anciens comptables qui payaient, même si aujourd'hui on n'en parle pas, le problème de ceux qui prennent la poudre escampée avec les faux et les salaires des autres agents. Et de toute façon, il faut repenser ce système-là parce que ça conduit à la misère de la population. Une fois vous rendez quelque part, la famille qui va vous héberger pour percevoir cet argent, vous êtes redevable d'y laisser quelque chose. Peut-être en cours de route, vous allez également subir le problème de couper des routes et vous verrez venir remettre uniquement la signature à la banque qui vous a servi de l'argent, mais en définitive, quand vous êtes à la maison,
vous n'en bénéficiez pas. Merci beaucoup, Jean-Vincent. Vous avez rejoint, en tout cas, notre invité sur certains points, et notamment pour dire qu'il faut replacer les mots à sa place, donc la bancarisation pour vous. Là, il s'agit plutôt de la domiciliation des comptes par l'État congolais. Donc, je crois que vous avez rejoint notre invité. Alors, nous allons prendre Jean-Vincent qui est à Lumela. Lumela, c'est au Kasaï oriental, voilà. Voilà, je me trompe vers les Sankourou. Jean-Vincent, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Vous êtes à Lumela?
Oui, je suis à Sankourou.
Dans les Sankourou, voilà. Kasaï oriental, merci beaucoup. Je crois que je n'ai pas tapé à côté. Jean-Vincent, vous avez la parole.
Oui, je suis pour savoir venir sur ce thème, c'est important pour la dernière fois, et merci à l'invité, à tous ceux qui l'ont donné comme explication jusque-là. Mais je veux vous dire quelque chose, que nous avons la chance d'inviter l'intérêt du pays. Il dit, ce n'est pas signifié. Nous considérons que nous sommes à la phase ministère de l'histoire des transferts étrangers. Puisque l'histoire qui se font ici avec la CMB, la Banque de l'État, vous ne pouvez pas imaginer. Puisque je peux raconter quelque chose, je ne peux pas vous imaginer. Ici, un agent qui touche par exemple, c'est en fin de mille quelque chose, n'a droit qu'à 700 000. Mais reste, c'est la banque qui s'approprie quand l'agent est réclamé, puisque ici chez nous, la banque est extorquée par les militaires. Je ne vais pas le dire les militaires, mais les policiers. Quand vous les réclamez, les militaires vont mettre la main sur vous et ils vont vous terroriser. Donc nous avons décidé de finir cette opération. Nous avons dit comment on peut bancariser les salaires des agents avec pour les institutions bancaires ne sont pas installées sur le président de la République. Est-ce que pour le moment, avec tout ce que nous avons en face aujourd'hui, il y a une présence qui se retire, qui décide de se retirer, nous discutons de l'opération. Et nous prenons les discours du Premier ministre de l'année passée, les économistes n'aimeraient pas cette opération. Nous ne savons pas à ce qu'ils en font. Est-ce que les parlementaires peuvent demander à notre Premier ministre, est-ce qu'on ne peut pas l'inviter à venir justifier le pourquoi de la suspension? Où sont aussi les économistes n'aimeraient pas cette opération? Et enfin, est-ce que nous ne pouvons pas rentrer au système de la caritate? Si, par exemple, le système de la caritate se voit partout, même au contraire, avec la CMB, elle doit de quitter Djonga à 250 mètres pour venir toucher les maigres salaires. Nous avons interdit de faire enseigner ici. Alors, je pense que c'est le moment à venir demander au Premier ministre de clarifier la gestion de cette opération. Ou en attendant de remettre la fin des années fonctionnelles là où les banques ne sont pas installées à la caritate. C'est ça ma contribution.
Merci beaucoup Jean-Vincent de Lomela à Sankourou. Kams, vous êtes à Likassi, bonjour.
Bonjour, bonjour à l'invité.
Oui, rapidement Kams, quel est votre point de vue?
Ma tête machine, c'est le 6e. Parce que le bilan vraiment du système actuel là, c'est complètement négatif. C'est négatif de la manière où la banque, on dit la banque centrale ou des banques commerciales, c'est pas seulement Kinshasa ou à Kassi, à Lumbashi. Pour un exemple, il y a nos frères et sœurs là de l'Est qui sont par exemple à Kabongo, à Kabaka, à Mwanga, je ne sais pas, à peu près de 450 km pour atteindre une ville. Comment est-ce qu'ils peuvent être payés? Il était déjà là pour une semaine et demie, même deux semaines, c'est qu'il puisse maintenant toucher son salaire, puis un salaire de 30-45 000 francs. Dommage vraiment. Moi, je pense que notre gouvernement de la République doit avoir cette manière d'assumer cette responsabilité-là. Quand nous faisons seulement des discours pareil, c'est nous, normalement, dans notre pays, on a toujours un système de nos durées, de commencer, mais on ne sait même pas comment est-ce que ça se nous. Dommage vraiment pour notre pays. Merci, Jean.
Merci beaucoup, Kams. 081-890-7315 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook à chaque thématique du jour.
Parole aux auditeurs.
Michel Sommoyer, vous êtes analyste économique, vous êtes notre invité. Réaction.
Oui, mais je crois qu'il faut faire attention à tout ce que, je veux dire, prendre à cœur toutes ces analyses très pertinentes qui viennent d'être faites par tous les auditeurs qui ont fait l'intervention de cette émission. Notamment M. Mihigo Namur qui a été intervenu pour vous, parce qu'il revient sur certaines choses, mais avec beaucoup plus de pertinence. Il vous dit que l'enseignement normal pour donner la qualité attendue pour le développement de la nation doit se dérouler sur 220 jours. Et que la bancarisation, si vous voulez, à cause de la bancarisation, ce nombre de jours est réduit sensiblement à la baisse. Je vous ai dit qu'il y a des enseignants qui perdent une semaine en dehors de leur lieu de travail pour attendre la paie. Est-ce que cette opération elle est en faveur du développement de notre pays, de notre économie? Est-elle en faveur de la capacitation de nos ressources humaines, du niveau de formation que nous donnons à nos enfants aujourd'hui? dans ce complexe. Est-ce que ce n'est pas, passez-moi le terme, sans être méchant, entre guillemets, une forme de sorcellerie que le gouvernement est en train de pratiquer en plein jour sur la nation congolaise, en prenant des décisions sur lesquelles le gouvernement est clairement informé que le développement, le niveau de développement en infrastructure bancaire dans notre pays ne devrait pas permettre une telle aventure. Le gouvernement le sait très bien. Nous n'avons que 18 banques pour 2 345 000 km² et près de 80 millions d'habitants. 18 banques avec une densité de 4 millions d'individus par banque. Vous prenez quand même une telle mesure obligeant les gens à quitter leur lieu de travail pour se déplacer pendant une semaine à 100 km, 200 km à affamer. Je crois que quelque part, c'est quand même du cynisme de la part du gouvernement, sans être méchant. Et qu'on devrait effectivement réduire. Et qu'aujourd'hui, le gouvernement qui a pris un accord clair avec les banques, avec la CB, pour cette aventure, se rétracte. Mais est-ce que c'est sérieux de la part d'un gouvernement? Pourquoi on prend toujours des mesures qui n'arrivent jamais jusqu'au bout? Comme venait de dire tout à l'heure, je crois, Maurice, il y a toujours comme ça des initiatives qui ne sont jamais achevées. Le gouvernement a pris récemment des mesures pour dire on va lutter contre la dollarisation de notre économie. Aujourd'hui, on en est où? Deux semaines après, un mois après, la Banque centrale nous sort une réglementation d'échange qui conforte la dollarisation de notre économie, qui permet de continuer. Et on s'arrête là. Le gouvernement s'est engagé à mettre fin, ou plutôt à faire respecter la loi sur le petit commerce. Aujourd'hui, on en est où? On n'en parle même plus. Moi, je crois qu'on peut être, on doit quand même être au minimum sérieux lorsqu'on gère des millions d'âmes, et surtout lorsqu'on gère des semblables. C'est très important. Parce que nous nous connaissons là, nous avons vécu ensemble, on a évolué ensemble, on se connaît très bien. Il ne faut pas que, aujourd'hui, arriver à des hautes fonctions, vous puissiez abuser des conditions d'existence des autres. C'est pas correct. Moi, je crois que de ce point de vue, dans le gouvernement, le gouvernement doit être interpellé. Par rapport à cette opération bancaire.
Oui, rapidement, à une phrase, Michel, parce qu'on est pratiquement à la fin de cette
émission. Je termine justement par là. Par rapport à la mesure qui a été prise par la CB, je crois que nous devons prendre ça comme leçon pour obliger le gouvernement à faire passer toute mesure qui voudrait prendre une aventure comme ça, à la faire passer préalablement par un débat au gouvernement, ou je veux dire au Parlement. C'est important. Je crois que c'est très important si on va être géré comme ça de façon abusive. Et puis du lendemain, on crie à très haute voix, ça marche très bien, c'est très parfait, alors qu'en réalité, il n'y a rien de consistant, c'est des patates pourries.
Merci Michel Somoué, vous êtes analyste économique, d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Nous vous remercions, chers auditeurs, vous tous qui avez participé à ces débats citoyens. On dit merci à Sylvain Matundu qui a assuré la mise en œuvre de ce programme réalisé par Gilly Feza Bongonda, coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Ben Kabamba. À très bientôt.